l'association La Luciole présente Handicap Tribune, magazine de libre expression des personnes handicapées et de leurs associations. Au micro, Dorothée et Philippe, avec à la technique l'efficace complicité de Silly.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous voici donc pour un nouveau numéro de Handicap Tribune avec Dorothée au programme ce soir.
Eh bien, au programme ce soir, la découverte d'une association qui propose du transport alternatif. Oui, ça fait du transport alternatif en pousse-pousse. Alors là, on dirait qu'on va un peu sur le terrain d'Ecoforum, un petit peu, oui, effectivement, mais pas vraiment, parce qu'ils parlent aussi de transport pour les personnes handicapées, donc ça se rejoint en fait, écologie et handicap se rejoignent, c'est pas mal, ça fait des liens entre les émissions, justement, il y avait une réunion tout à l'heure qui en parlait, voilà, c'est l'occasion. Mais on va commencer par une pause musicale, comme d'habitude.
Oui, alors donc, c'est vrai que ça a été la journée de la femme, il y a peu de temps. Et donc, on a décidé, comme ça, de vous mettre un petit clin d'œil, mesdames, avec Paranal Sylvestre, La Faute à Ève.
D'abord, elle a goûté la pomme, même que c'était pas très bon. Il n'y avait rien d'autre, alors en somme, elle a eu raison, eh bien non. Ça l'a pourtant arrangé l'homme, c'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche, il a bouffé la pomme jusqu'au trognon et vite fait. Oui, mais c'est la faute à Ève, il n'a rien fait lui Adam. Il a pas dit femme je crève, rien à se mettre sous la dent. D'ailleurs c'était pas terrible, même pas assaisonné. C'est bien écrit dans la Bible, Adam il est mal tombé. Après ça, quand Dieu en colère leur dit avec des hurlements, manque une pomme à l'inventeur qui l'a volée, c'est toi Adam. Ève s'avance à fanfaronne et dit mais non papa c'est moi. Mais d'ailleurs elle était pas bonne, faudra laisser mûrir je crois. Alors c'est la faute à Ève s'il les a chassés d'en haut. Et puis Adam a pris la crève, il avait rien sur le dos. Ève a dit, attends, je cueille des fleurs, c'était trop petit. Fallait une grande feuille pour lui cacher le zizi. Après ça, quelle triste affaire, Dieu leur a dit, faut travailler. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Ève leur a dit, j'ai trouvé. Elle s'arrange à la salope pour faire et porter les enfants. Lui poursuivait les antilopes et les lapins pendant ce temps. C'est vraiment la faute à Ève si Adam rentrait crevé. Elle avait une vie de rêve, elle s'occupait des bébés, défrichait un peu la terre, semait quelques grains de blé, pétrissait bols et soupières, faisait rien de la journée. Pour les enfants, ça se complique. Mon premier fils, il est content. Mais quand le deuxième rapplique, il devient un peu impatient. Le temps passe, Adam fait la gueule. Il s'aperçoit que sa nana va se retrouver toute seule avec trois bonhommes à la fois. Là, c'est bien la faute à Ève. l'école n'a fait que des garçons. Et le pauvre Adam qui rêve de changer un peu d'horizon, lui faudra encore attendre de devenir grand-papa pour tâter de la chair tendre, si même il va jusque-là. En plus, pour faire bonne mesure, elle nous a collé un péché. On se repasse et puis qui dure, elle a vraiment tout fait rater. Nous les filles, on est dégueulasses, vrai que ça nous est naturel. Et les garçons, comme ça passe par chez nous, ça devient pareil. Mais si c'est la faute à Ève, comme le bon Dieu l'a dit, moi je vais me mettre en grève, j'irai pas au paradis. Non mais qu'est-ce qu'ils s'imaginent, j'irai en enfer tout droit. Le bon Dieu est misogyne, mais le diable il ne l'est pas. Ah.
Voilà donc Anne Sylvestre, La faute à Ève. C'est une chanson qui est très bien écrite, je trouve, et qui est vraiment très bien interprétée aussi, à mon avis. C'est dans l'intégrale hein, qu'on a trouvé ça. Oui. Avec, c'est l'album, je crois que c'est de Bonnes Nouvelles ou quelque chose comme ça. Si je me souviens bien, j'ai pas le titre exact sous la main.
Je crois que c'est quelque chose comme ça, mais je l'ai pas là non plus.
Voilà, voilà. On en passe assez souvent de Anne Sylvestre parce qu'on aime bien. Puis j'espère que vous aussi, tant qu'à faire. Alors donc, l'association Proxipus, eh bien, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec un historique de l'association, fait donc par Jacques Bernard, qui va nous expliquer qui il est, justement, et qu'est-ce qu'il fait là-dedans. Jacques Bernard, bonjour, vous êtes le président de l'association Proxipus, qui est à la fois une association et une coopérative. Alors, c'est peut-être un peu compliqué pour les gens qui ne connaissent pas. Le mieux, ce serait peut-être d'expliquer un petit peu l'historique du projet.
Tout à fait. Ce montage un peu compliqué, il s'explique que par l'histoire. Pour rectifier tout de suite, je ne suis pas le président de l'association Proxipus, je suis le président de la coopérative Proxipus. Et dans le même temps, je suis salarié de l'association, je suis secrétaire général de l'association. Mais il faut qu'on remonte un petit peu plus loin à la création de Proxipus pour expliquer ce montage un peu innovant dans l'économie sociale et solidaire. En 2009, nous étions dans le contexte du Grenelle de l'environnement. C'est Célia Guéry qui est une personne, qui est une artiste et qui a un peu la vision de Proxipus, qui se dit on est dans la deuxième ville de France, toutes les grandes capitales européennes, toutes les grandes villes ont leur service de Proxipus, ont leur service de Pousse-Pousse en tout cas, et ce serait dommage que Marseille y ait rien. À ce moment-là, elle intègre la couveuse d'économie sociale et solidaire Intermaid, et elle travaille sur le projet. Moi, je la rencontre tout à fait fin 2009, parce qu'elle cherchait un co-porteur de projet, un gestionnaire notamment sur la partie gestion, et on part tous les deux dans cette aventure, et la première chose qu'on fait, on crée l'association Proxipus. On rassemble pas mal de monde autour de cette idée-là, et avec les trois pousse-pousse que de manière très volontariste, Célia avait rassemblé sur ses propres deniers, on part sur une étude de marché, et puis l'année 2010 devait servir aussi à nous connaître mieux et à voir quelles étaient un peu les demandes. À l'origine, Célia Guéry avait l'idée de faire, comme ça se fait beaucoup sur Paris notamment, du vélo-taxi, c'est-à-dire une alternative supplémentaire. On a le taxi pour aller à l'aéroport, et puis pourquoi pas un pousse-pousse pour faire des petits trajets en centre-ville. Mais on est revenu rapidement là-dessus parce que, ma foi, la corporation des taxis l'a pas vu d'un bon œil localement et ne nous a pas permis en tout cas de réaliser ce projet. Là-dessus, on s'est aperçu qu'il y avait une demande touristique qui était assez importante. Là-dessus, on s'est aperçu aussi qu'il y avait des demandes de communication parce que c'est un bel espace d'affichage pour la communication. Ce sont des véhicules, c'est mobile et ça se voit bien effectivement, ça attire l'œil. Et puis voilà comment c'est parti en 2010, 2011, on on a continué cette étude en nous apercevant de nos limites, c'est-à-dire qu'avec trois véhicules, on ne pouvait pas aller bien loin, et en tout cas, on ne pouvait pas en faire un projet économique dans le sens de salarier des personnes, des choses comme ça. Donc on a cherché les moyens et on a trouvé l'idée. C'est Autopartage qui nous l'a soufflé, cette idée. C'est de créer une coopérative, donc sous forme de société, c'est une société par action simplifiée, qui nous a permis de rassembler avec nous des investisseurs, c'est-à-dire sans passer par la subvention publique. On a réuni 30 000 euros. Et là-dessus, la NEF, qui est une banque aussi de l'économie sociale et solidaire, a abondé de 30 000 euros supplémentaires. Ce qui fait qu'on avait un petit pécule qui nous a permis de constituer le parc que nous avons actuellement, c'est-à-dire de 8 véhicules plus 2 véhicules pour la livraison. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes ? Ben, on a du transport à la demande qui est réservé, bien entendu, à nos adhérents. Nous avons 70 adhérents là actuellement. On a un grand projet pour les personnes à mobilité réduite, parce que c'est vraiment une demande qu'on a repérée comme très forte. Et voilà, sinon on développe toujours les déplacements touristiques. Notre marque de fabrique quand même un petit peu à Proxipus, c'est de travailler avec les habitants, ou avec les commerçants, ou avec les artisans, ou avec les lieux culturels. Ça nous paraît beaucoup plus intéressant. Et voilà comment nous développons tout doucement. Ensuite, économie oblige, la société coopérative, elle, développe aussi au niveau de la communication, c'est-à-dire qu'elle essaye d'intéresser des entreprises ou des collectivités locales pour mettre de l'affichage institutionnel ou commercial sur les pousse-pousses.
Donc actuellement, si on a des demandes à vous faire, comment ça se passe ?
Ce qui nous manque encore, c'est une visibilité en ville. On y travaille avec la Friche, par exemple, mais on n'a pas de station, pour les raisons qu'on avait dit auparavant. Donc il faut nous appeler déjà. Il faut nous appeler soit par téléphone, soit à partir de notre site, soit à partir de notre Facebook même. On retient la balade. Si c'est une balade touristique, c'est un tarif unique de 30 euros de l'heure. On peut aller avec deux personnes dans les pousse-pousses. Soit c'est du transport à la demande, c'est-à-dire ça s'adresse plutôt aux Marseillais. C'est des gens qui ont l'intention de se servir régulièrement du pousse-pousse. À ce moment-là, on demande aux gens d'être adhérents. Pour être adhérent, on est une société, donc il faut prendre une part sociale. La part sociale est à partir de 20 euros. C'est définitif, hein, ce n'est pas une cotisation associative, c'est-à-dire ça ne se renouvelle pas chaque année. C'est quelque chose qui vaut pour autant que vous voulez rester dans la société. Et à ce moment-là, vous bénéficiez pour l'instant d'un tarif donc de 24 euros de l'heure sur tous les déplacements que vous voulez, à partir de 6 euros, donc TTC, le quart d'heure.
Voilà donc la première partie de l'interview avec Proxipus, qui donc a effectivement un projet pour les personnes handicapées dont on parlera sur la fin de l'émission. On va peut-être. En fait, nous on a fait une balade en pousse-pousse. Justement, une balade touristique. Parce qu'en fait, tant qu'à faire, puisqu'on en parlait, on a voulu essayer. Et on vous proposera donc un reportage sur cette balade après la pause qui vient et qui est, Philippe ?
Oui, bah écoutez, on va faire beaucoup moins écologique que nous, hein, puisque bon, le pousse-pousse est gentil, mais bon, il faut pédaler. Et ma foi,
tu préfères les grosses voitures qui polluent.
Oui, j'ai envie de vous amener un petit peu faire une balade en Bugatti.
Les voitures anciennes.
Oui, avec Michel Fugain.
Viens, je t'emmène avec moi en balade. Tu laisses tout, on s'en va. En balade, ma Bugatti Sport de 1930 n'attend plus que toi. Crois-moi, tu seras contente. Paris Deauville en 4 heures, c'est extra. Viens, je t'emmène avec moi. En balade, tu laisses tout, on s'en va. En balade, tu as bien le temps de faire du 20 ans, c'est trop tôt. Crois-moi, ce serait dommage de ne pas profiter de mon loto. Mais tu peux très
très bien me dire en chemin que l'herbe est tendre. Tu peux même avoir le désir soudain de t'y étendre. Et si tu voulais te jeter sur moi, je ne dirais rien. Et si tu voulais encore plus que ça, je le ferais bien. Très bien. Et quand demain j'irai te chercher des bouquets de fleurs et de coquillages, tu m'attendras au port sur le quai ou sur le bord de la plage. Je t'en prie, ne perdons pas de temps. Je te prêterai ma brosse à dents. Viens, je t'emmène avec moi en balade. Tu laisses tout, on s'en va en balade. Ma Bugatti Sport de 1930 retient ses chevaux, tout prêts à faire du 60. Paris-Deauville en 4 heures et bravo. Mais tu peux très bien me dire en chemin que l'herbe est tendre. Tu peux même avoir le désir soudain de t'y étendre. Et si tu voulais te jeter sur moi, je ne dirais rien. Et si tu voulais encore plus que ça, je le ferais bien.
Non, c'est fini.
Bon, c'est fini parce que ça pollue les Bugatti, c'est ça?
Vers des, vers des véhicules moins
polluants,
hein, n'est-ce pas?
Ouais, mais Marseille est polluée quand même. Alors bon, on en a quand même pris un bon peu quand on est quand on a baladé en particulier sous les tunnels. En fait, on va pas aller à Deauville, nous. Hein. On va vous balader dans Marseille à la découverte du quartier de la Belle de Mai. Et donc, ben voilà la première partie de cette balade. En fait, le son n'est peut-être pas très bon, je ne sais pas. En tout cas, j'ai rarement l'habitude de faire du reportage en plein air. J'ai donc des micros qui sont intégrés au magnétophone et c'est peut-être pas terrible. Si par hasard, il y a des auditeurs qui en savent plus long que moi sur les reportages à l'extérieur et qui veulent me donner un coup de main, bah, c'est volontiers. Surtout, éventuellement des animateurs de radio qui seraient plus experts que moi dans le domaine. Ben, les conseils sont bienvenus parce que je sais que c'est pas terrible, terrible. Bon, enfin, j'espère quand même que ça vous fera pas tourner le poste pour autant. Et donc, nous partons en balade à la Belle de Mai.
Il y a combien de temps que vous êtes dans l'association, vous?
Moi, ça fait 2 ans maintenant. Je fais les balades touristiques, ça j'aime bien. Et puis parfois, je m'occupe, j'essaye de d'aider pour ce qui est l'organisation de la gestion par exemple des différents cycloguides parce qu'il y a plusieurs statuts en fait. Il y a les salariés.
Il y a combien de temps que vous êtes dans l'association?
La candidate doit demander quand même une sacrée attention.
Oui.
Parce que là, c'est... Là, quand tu côté carrosserie, il n'y a pas grand-chose.
Surtout,
Ouais, j'imagine.
On va avoir des yeux partout.
Oups.
Et on se rapproche de la frontière.
La frontière, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'en fait, la Belle de Mai est un peu coupée du centre-ville par la voie ferrée. Ça fait un peu comme une barrière, quoi. Et le moyen d'aller de l'un à l'autre, c'est de traverser les deux tunnels. Soit le tunnel du boulevard national, soit celui de la rue Bénédicte.
Oui, voilà. C'est sûr.
Ce sont des tunnels qui sont assez noirs, sombres. Les voitures roulent vite, donc ça sent le gasoil. C'est vraiment pas très agréable, quoi.
Ouais. Faudrait qu'il y ait quelqu'un de convaincu, parce que je les ai traversés pendant...
Ah ouais.
Pendant des années.
Et
c'est
ouais.
La national.
Bah, moi, je sais que j'allais très vite aussi. Pour le peu que j'ai eu l'occasion de le prendre, j'étais pas rassurée là-dessus.
Non, pas du tout rassurant.
Donc sous le tunnel.
C'est un peu un soleil sur quatre roues finalement.
Là en fait il n'y a que trois roues.
Ah d'accord.
Il y en a deux derrière et une devant.
Une devant, d'accord.
Comme les supporteurs pour un moment, ouais. C'est pas l'inverse. Et sauf qu'au lieu que ce soit un moteur à essence, c'est un moteur à
électrique.
Donc là en fait, je viens de tourner pour prendre la rue Clovis-Hug. Donc en fait ici là, on est en train de passer au milieu de deux bâtiments, un qui est tout récent parce qu'il vient juste d'être terminé sur la gauche, qui est la réserve du fonds du MUCEM, donc le centre de ressources et de réserves. Donc c'est là où vont être entreposées toutes les œuvres du MUCEM.
D'accord.
Au total, il y a plus de 1 million d'œuvres. Hein. Elles ne seront pas systématiquement toutes là, mais celles qui ne seront pas exposées seront ici. Et c'est là où elles seront conservées et puis réhabilitées, restaurées. D'accord. Et puis à droite, on a un bâtiment beaucoup plus ancien et historique qui est donc un des morceaux de la grande friche de la Ceita.
D'accord, oui.
Donc les anciennes manufactures de tabac de la Belle de Mai. Donc cette partie ici, c'est la partie qui est dédiée aux archives municipales. Donc on a toutes les archives de la ville de Marseille. Je crois que le document le plus ancien d'ailleurs, il remonte au XIIe siècle.
Loin quand même.
Ouais, voilà. Et donc c'est la rue Clovis-Hug, mais autrefois elle s'appelait la rue Bleue. Parce qu'en fait, un peu en hommage aux cigaretières qui, quand elles sortaient de l'usine, étaient habillées toutes avec leurs blouses bleues et déferlées dans la rue. Et voilà.
Oui, d'accord.
Ce sont deux bâtiments qui sont pas trop bizarres l'un par rapport à l'autre.
Eh ben, c'est assez. Je trouve que c'est assez harmonieux. C'est le bâtiment de la Ceita et c'est plein de fenêtres. En voûte, donc pas mal d'ailleurs des fenêtres sont condamnées parce que j'imagine qu'à l'intérieur ils ont dû transformer un peu en salle de conservation et de réserve. Et puis à gauche le centre de ressources du MUCEM, c'est un grand bâtiment, un grand bloc, pareil il y a très peu de fenêtres et c'est un grand bloc de béton teinté ocre, un peu couleur pierre de cassis en fait. Et très carré et en fait ça se marie assez bien puisque les fenêtres aussi sont ocre jaune là sur la façade de la Ceita. Donc c'est assez ça fonctionne.
Vous avez de quoi vous éclairer quand même pour la nuit?
Oui.
Quel nom?
Donc voilà, on laisse passer les voitures et là on va sentir le calme. Voilà.
Donc c'est une toute petite rue très étroite, la rue Leva. Et en fait, donc à gauche, on a des petits immeubles d'habitation. Mmh. Et à droite, on a un couvent. Et qui est un couvent un peu particulier parce que c'est le couvent des sœurs sacrifiées du cœur de Jésus. Et ce sont des sœurs qui, en fait, n'ont aucun contact avec le monde extérieur.
D'accord.
Et voilà. Et elles ont un immense jardin qu'on peut voir d'ailleurs depuis le toit terrasse de la friche. Et elles cultivent tout un tas de plantes, etc. Et une fois par an, le deuxième week-end de mai, il y a des portes ouvertes. Et donc, il y a une association qui gère ça, hein, puisque nous, on n'a pas de contact avec ces sœurs-là. Mais on peut acheter leur production de l'année, des boutures, les confitures, etc. Oui, il y a un vide-grenier aussi. Voilà.
Oui. Là, je ne connaissais pas du tout.
Nous avons quelques fleurs ébarbatives, je trouve.
Ouais. Oui.
C'est pour dire.
C'est très 19e siècle, très même avant, très vieille église.
Et dès qu'on sort de cette petite rue, là, on débouche sur la friche à droite. On y retournera après, on va aller vers le centre du quartier pour le moment. Mmh.
On est sans moteur, mais les autres ne le sont pas. Hein.
Ça s'entend, hein?
Oui, oui. Enfin, sans moteur. Sans moteur qui fasse du bruit, du moins.
Voilà.
Mais heureusement pour Sarah, il y a quand même une assistance électrique. Hein, sinon.
Ah oui, c'est sûr. C'est bien, c'est bien de l'esclavagisme.
Ouais, je sais pas, parce que les gens qui. En Inde, les gens qui ont les rickshaws, là, c'est pas électrique ça.
Ah non, non. Nous, on a le confort d'électricité, mais eux, non.
Et c'est le même type de...
Oui, celui dans lequel vous êtes là à l'heure actuelle, c'est exactement le type de. C'est le rickshaw traditionnel. Hein. Sauf qu'il est amélioré avec son système d'assistance électrique, mais la forme.
Ça donne un véhicule lourd, au point de vue.
Pardon ?
Au niveau du poids, ça donne.
Alors, le poids de celui-là, de véhicule, il est de 130 kg à vide.
Pardon ?
130 kg.
Ah, d'accord.
C'est surtout les batteries, en fait.
Ouais, les batteries, oui, mais.
Il y a deux batteries, en fait.
Et quand vous dites 130 kg, vous comptez les batteries avec ou...
Oui, voilà.
C'est bon, oui.
Ah
ouais,
d'accord. Ouais, mais...
Donc là, on arrive sur la place Cadena, devant l'école.
Ouais.
Vous entendez les enfants, là. Ouais. Sortis de l'école, là. Donc en fait, pour la place Cadena, c'est la place un peu centrale du quartier, avec son... marché, donc un marché quatre fois par semaine. Elle a été baptisée Bernard Cadena du nom d'un des élus du début du siècle, du dernier siècle d'ailleurs, du 20e, et qui s'est installé à la Baie de Mai en tant que cordonnier, puis ensuite qui a créé le premier syndicat des cordonniers et qui s'est lancé en politique, je crois, avec le Front Populaire, et qui est devenu donc maire au début du 20e siècle.
Ah, je connaissais le nom, je ne
voilà.
Savais absolument pas qui c'était. Oui.
Donc là, on est rue d'Orange, et là, on est en train de passer devant la poissonnerie du quartier, qui a la particularité de se transformer. De temps en temps, le soir, en restaurant ou bien en organiser des soirées à domicile. Très sympa, avec beaucoup de gens, avec de la passe de la mer.
Wow. Voilà donc pour la première partie de cette balade dans la Belle de Mai, alors que j'espère que ça plaît. Hein. Ma foi, nous, ça nous a bien plu en tout cas. Et le son, apparemment, d'après ce que raconte Philippe, n'est pas si épouvantable que je le craignais. Mmh. Ben, tant mieux si c'est pas si épouvantable que ça, parce que évidemment, écouter des choses qui sont difficiles, c'est pas agréable. Je trouve moi, que cette dame se débrouille pas si mal pour décrire les choses. Qu'est-ce que t'en penses, Philippe ?
Ah oui, non, c'est tout à fait intéressant. Elle donne des points qui sont peu connus, qui sont intéressants pour connaître un petit peu la vie passée du quartier, quoi.
Et puis même, je trouve que sans voir, j'ai l'impression que c'est quand même assez descriptif. Et donc, du coup, on arrive à bien s'en débrouiller, quoi. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai laissé la balade, parce que ça fait comme une espèce de balade sonore dans le quartier. Et voilà, on va donc passer à une pause musicale. Là, on va sur la Lune, c'est ça ?
Ah oui, on va aller sur la Lune. On va aller sur la Lune pour y chercher des fraises.
Ah bon ?
Hein, avec Strawberry Moon, par Anita O'Day, qui est une chanteuse de jazz de l'époque de Ella Fitzgerald et de Billie Holiday.
A strawberry moon in a blueberry sky in a garden high over Manhattan. Oh, what a heavenly pattern. Even your ma and your pa never saw such a strawberry moon in a blueberry sky, gazing over two starry-eyed people. Gazing at stars round the steeple of the church where I'll marry you soon, under a strawberry moon. Oh, the moon, lovely moon, what a glorious strawberry moon. I strawberry shortcake and blueberry pie, and I love shopping cocktails with cherries. Darling, I think they're the betties. Most of my jar filled with fresh caviar. What a strawberry moon in a blueberry sky makes a banquet of hot dogs and mustard. Pie crust without any custard, just as long under a strawberry moon. Hud, hud, the moon, lovely moon, what a glorious strawberry moon. Hud, the moon, lovely moon, appetizing old strawberry moon. Strawberry sail on a blueberry sea. It's a dream boat all loaded with treasure, bringing a lifetime of pleasure. It's our ship and it's coming in soon under a strawberry moon. What a glorious strawberry moon. Oh, the moon, lovely moon. What a glorious strawberry.
Voilà, donc c'était Anita O'Day avec Strawberry Moon. Voilà, donc la lune de fraises, si vous voulez.
Bon, ou les fraises sur la lune, je ne sais pas. Bon, bref, nous, on va continuer, on va redescendre sur Terre et on va continuer la balade dans la Belle de Mai avec quelques un petit tour dans les rues du quartier. Voilà, je vous laisse découvrir ça.
La conduite doit demander quand même une sacrée attention.
Oui.
Parce que là, c'est... Là, là, côté carrosserie, il n'y a pas ouais. grand chose.
Surtout,
hein. Ouais, j'imagine.
Il faut avoir des yeux partout.
Oups!
Ça les trous!
Ça les trous, c'est. Mais il y a une belle suspension quand même! Hein. C'est pas trop.
Non, non!
Trop secoué malgré tout! Donc là, j'ai fait un petit tour pour. Pour être dans le bon sens de la circulation, pour me permettre d'arriver place Capot, qui est la deuxième place du quartier, et qui est la place qui abrite l'église du quartier. C'est une église qui a été bombardée en 1944, donc détruite. Donc l'architecture, là, c'est une architecture beaucoup plus moderne, parce que je crois qu'elle a été reconstruite en 1956, si je ne me trompe pas. Et voilà. Et en fait, aujourd'hui, elle est gérée par un curé qui est le père Paul, qui est très, très investi dans la vie du quartier et puis aussi très investi dans la lutte contre l'exclusion des Roms. Et d'ailleurs, cet hiver, quand il y a eu les grandes vagues de froid, il avait hébergé de nombreuses familles pour ne pas les laisser à la rue. Devant le boutique, donc un peu plus
bas
du quartier.
Ah oui,
à droite, un peu plus bas, on a les bancs publics, un autre théâtre du quartier. On va tourner à gauche, mais un peu plus bas. Là, on va passer juste devant, au numéro 91, on a la maison où est né César, le sculpteur. Donc là, je viens de tourner boulevard ouest. Alors, au boulevard ouest, on a. Sur la gauche, on a quelque chose de aussi assez particulier en France. Il faut dire qu'à la Belle de Mai, on en a des particularités. C'est un ensemble de rues. En fait, on a des résidences un peu modernes, hein, des bâtiments un peu récents sur la gauche. Et dans ces bâtiments-là, ils ont créé 15 logements pour des personnes à mobilité réduite, donc en fauteuil roulant. Donc, les jeunes qui passent. Donc en fait, la particularité de ces logements-là, par rapport à d'autres en France, c'est qu'il y a un système d'assistance 24 heures sur 24. Et donc vraiment de permettre aux personnes avec des handicaps assez lourds quand même de pouvoir avoir une certaine autonomie dans leur logement. Et en même temps, ces logements sont intégrés à d'autres logements classiques. Donc il y a une vraie mixité dans le bâtiment et voilà, avec un aménagement pour ces personnes en fauteuil roulant. Donc c'est géré par l'association Andy Toi.
Okay, ouais.
Voilà. Donc là à droite on passe devant un autre lieu du quartier qui est l'Embobineuse, qui est une scène alternative. Et puis ils ont fait un petit jardin avec
des
plantes. Voilà.
C'est quoi qui est par là?
En fait, le collectif Boîte et Compagnie, donc collectif d'habitants de la Belle de Mai, l'année dernière avait décidé de fleurir et de peindre les murs d'un des passages. Donc c'est un escalier, une montée d'escalier qui passe de la rue de la Belle de Mai à la place Cafo. Et donc les fleurs ont été petit à petit
volé par à droite à gauche, donc il n'y a plus de fleurs, mais il reste tous les murs peints avec les fresques et avec des poèmes dans toutes les langues qui correspondent aussi aux langues des différentes successions de communautés qui ont émigré dans le quartier.
Mmh. Voilà. Ça a été fait par quelqu'un des Beaux-Arts,
ça a été fait par des artistes du quartier, mais pas seulement, les enfants, les habitants. Mmh. Donc il y avait des gens du milieu artistique et puis d'autres non. Mmh. Le collectif Boîte et Compagnie, c'est un collectif d'habitants qui est complètement spontané, hein, qui n'a pas de structure juridique, qui a appelé Proxipus pour leur proposer de faire un parcours touristique à la Belle de Mai, pour essayer de montrer que la Belle de Mai n'a pas qu'une image négative et qu'il y a aussi du patrimoine architectural, du patrimoine vivant, etc.
Vous avez d'autres quartiers comme ça? Vous avez des...
Bah on est à la base, on est plus sur le centre-ville et la corniche, enfin les quartiers un peu touristiques.
Oui, oui.
Voilà. Et le panier, Noailles. Maintenant, on a un parcours un petit peu aussi autour des nouveaux bâtiments culturels qui sont en train d'émerger pour 2013, quoi. En fait, on a plutôt fait un système un petit peu de parcours à la carte et à la demande.
Alors là, on est en train de remonter vers la Fiche, donc on est rue Jobin.
Ah oui, on va passer devant Radio Galère, quoi. Ouais.
Voilà.
Quelque chose, vous
voyez? Si, si.
On allait même vers chez nous, hein.
Ouais, ouais.
On est aussi bien aussi en merdant.
Donc là, c'est les travaux qui sont en face de la Friche. Ah, ils mettent des travaux partout à Marseille en ce moment.
C'est infernal.
Ça change tout le temps. C'est. On ne sait jamais exactement comment la rue va être configurée pour passer, c'est assez...
C'est vrai qu'on a l'air quand même long à revenir, j'ai aussi abusé. Hein.
Voilà, là on passe devant la rue, et puis on va emprunter le deuxième tunnel frontalier de la rue Bénédicte.
La rue Bénédicte, ouais. Il faut passer à pied celui-là aussi, bien non?
Et bien voilà, la petite balade en pousse-pousse.
Oui, avec l'association Proxipousse.
Avec Sarah, qu'on remercie beaucoup, à qui on n'a même pas eu l'occasion d'offrir un pot d'ailleurs.
Oui. Peut-être pour ça qu'on va lui dédier la chanson qui vient.
Voilà, c'est peut-être pour ça. Voilà, alors la chanson, je pense, c'est Jean Ferrat avec Les Petits Bistrots.
Mais avant qu'on passe la chanson, je vais quand même souligner que l'antenne est ouverte au cas où il y a des gens qui veuillent réagir.
Oui,
c'est donc au 04 91 08 28 15, je suppose. C'est ça, Sidi?
Oui, c'est ça, oui.
Donc 08 28 15. Avec le 04 91 devant, bien sûr, pour réagir sur cette petite balade qu'on a faite. Et en attendant, on écoute donc Ferra, Les Petits Bistrots.
Les Petits Bistrots,
au pinard fleuri, nappes à carreaux et biftecs garnis, les petits bistrots où l'on vient goûter devant le perco, le premier café, les petits bistrots qui n'ont pas de jukebox, seulement la radio pour suivre la boxe, les petits bistrots où j'ai des amis, Robert et Jojo, et Simone aussi. La patronne est à la cuisine, le patron derrière son comptoir. On parle du Tour et du Racing, devant un rouge ou un petit noir. Les petits bistrots, quand je suis loin d'ici, à Londres, à Tokyo, j'en rêve et je me dis que les petits bistrots qui sont à Paris, je les reverrai bientôt. Salut les amis, les petits bistrots au poêle à charbon, avec l'apéro, la belote au fond. Et les petits bistrots, c'est comme un béguin, toujours on y revient, dans les petits bistrots.
Oui, alors donc, voilà, les petits bistrots, Jean Ferrat. Ça serait peut-être intéressant pour nos auditeurs de donner le contact, Dorothée, de...
Oui, mais je les donnerai, oui, mais je vais peut-être les donner tout de suite, mais le problème, c'est de les retrouver sur mon appareil que je n'ai même pas allumé, vu que j'avais pas grand-chose à vous raconter dessus. Alors, voyons voir. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc, oui, le contact, et en particulier pour les balades touristiques, c'est donc le 06 26 51 66 12. 06 26 51 66 12. Et puis donc, justement, on a posé un petit peu quelques petites questions à Sarah, et elle-même nous en a posé aussi, parce que c'est ce qu'on va vous faire écouter maintenant. Parce qu'une fois qu'en fait on a fait la balade, puis elle nous a raccompagnés, donc l'interview s'est faite dans la rue Brochet, chez nous.
Il y a combien de temps que vous êtes dans l'association, vous ?
Moi, ça fait 2 ans maintenant. Je fais les balades touristiques, ça, j'aime bien. Et puis parfois, je m'occupe, j'essaye d'aider pour ce qui est l'organisation de la gestion, par exemple, des différents cycloguides, parce qu'il y a plusieurs statuts en fait. Il y a les salariés. Mmh. Et puis il y a des cycloguides indépendants comme moi. Et puis il y a des bénévoles, il y a des gens qui viennent ponctuellement. Parce que l'entreprise, quand elle a commencé à fleurir, il a fallu répondre à la demande. Donc très rapidement, trouver des personnes à former pour pouvoir conduire les véhicules.
Ça demande une formation importante ?
C'est pas très long. Mais il y a plusieurs volets importants. Donc il y a d'abord la conduite des véhicules. Avec
donc vous êtes comme des vélos en fait.
Et c'est un peu particulier parce qu'il y a quand même l'assistance électrique. Donc il y a quand même un petit moteur et il faut apprendre à gérer ça. Et puis on n'a pas le même gabarit, on est un peu plus large. Donc aussi il faut apprendre à repérer un petit peu. Par exemple quand on passe entre les bornes... être attentif bien jauger en fait les dimensions du véhicule. Le code de la route, il est très important parce qu'on va pas très vite, parce que il faut savoir se comporter avec les voitures pour pas les agacer, parce qu'on a des passagers, donc on a une forte responsabilité. Donc ça demande beaucoup de fair play, beaucoup d'attention, tout ça, ça s'apprend.
Et du point de vue véhicule, vous êtes catégorisé comment ?
Donc comme des cycles. Donc là on est au démarrage, hein. C'est pas encore bien cadré, mais l'idée c'est ça, c'est d'avoir un volet conduite, un volet mécanique et puis la gestion des véhicules.
et puis un volet état d'esprit dans notre rapport aux passagers et puis dans notre rapport à la circulation, donc aux voitures, aux piétons, etc. Et puis un volet un peu touristique.
On vous demande le permis
Non. Mais nous, on veut essayer de créer une sorte de permis proxy-pousse, quoi. Mmh. Du coup, j'avais envie de vous poser des questions aussi.
Oui.
Quelle sensation, donc, quand on est non-voyant, ça donne quoi ? Est-ce que vous vous sentez en sécurité dans le pousse-pousse ? Vous avez ressenti quoi, en fait ?
En sécurité, bon, on sent quand même que c'est un véhicule assez léger, quoi. Donc,
évidemment,
puis après, c'est pour essayer de ne pas mettre. Il y a des précautions à faire, quoi. Apprendre quand même de ne pas mettre les mains à l'extérieur,
des oui.
Trucs comme ça, voilà. Donc, ça, c'est des trucs de base. Hein,
Est-ce que vous sentez beaucoup la circulation, les voitures autour
oui,
ça ressent beaucoup.
Oui,
bon, on les entend bien, c'est vrai que.
Mais j'ai trouvé que quand même, les gens étaient plutôt attentifs à vous. J'ai trouvé
ouais.
que c'était. Vous n'avez pas de grands coups de klaxon, vous n'avez pas de grands coups de frein, voilà.
Ouais.
Bien,
c'est... Ouais. Et au niveau de la balade touristique, vous arrivez à appréhender quand je vous présente les choses, ça permet de se donner une idée ou pas ?
Oui, évidemment, c'est sans doute assez grossière, hein, parce que
ouais.
c'est vrai que les informations quand même que vous donnez sont assez schématiques, quoi. Mais c'est intéressant. Du point de vue historique, en tout cas, c'est très intéressant.
Mais c'est vrai que c'est pas mal comme transport alternatif.
Oui, c'est très sympa.
Ça donne.
C'est plus
ça
sympa
donne
que la balade en autocar.
Et oui, parce qu'on est.
On est à l'air libre déjà.
Ouais, voilà, on est à l'air libre.
On entend ce qui se passe dans le quartier.
Et puis la vitesse, elle permet de mieux appréhender, je pense, parce qu'on va moins vite, donc on a plus le temps de sentir les choses.
Puis on entend ce qui se passe autour, c'est ça qui est chouette.
Ouais.
Voilà donc Proxipousse et ses balades touristiques en pousse-pousse. Président de la coopérative qui, lui, va nous parler de d'autres projets, notamment concernant...
Le contact.
Oui, ben les contacts, on les donnera à la fin, enfin.
D'accord,
oui, c'est bon. Ah, mais... Donc, on retrouve Jacques Bernard pour la suite des explications plus administratives, on va dire, de l'association, plus structurelle, quoi.
L'autre caractéristique, c'est que, c'est pour ça que je commençais par le Grenelle de l'environnement, le pari, hein, c'est d'être à la fois dans l'économique, c'est-à-dire montrer que nous avons une utilité économique, mais en même temps de rester dans l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire tout à fait intéressé par l'intérêt général. L'intérêt général, ben, c'est par exemple l'accessibilité. L'accessibilité, c'est pour ça que nous ciblons les personnes à mobilité réduite. Nos cycloguides ne sont pas que des conducteurs, mais ce sont aussi des hôtes. Ce sont des gens qui sont capables de co-construire le parcours, quel que soit le parcours, avec les personnes qui sont transportées. On reste toujours, bien entendu, très militant sur la question environnementale. On pense, et l'ADEME pense avec nous, puisqu'elle a subventionné la coopérative, alors que c'est la région à subventionner l'association, parce qu'ils sont convaincus avec nous que c'est une façon de, partielle bien sûr, hein, mais de substituer ce type de déplacement à la voiture individuelle, c'est-à-dire que ce qu'on voudrait éviter, c'est l'usage de la voiture pour aller acheter une baguette de pain ou pour aller faire ses courses en ville.
Puisqu'on parle de déplacement des personnes à mobilité réduite, vous envisageriez des déplacements où la personne ferait donc non seulement un déplacement, mais éventuellement un accompagnement sur de petites courses et puis retour ?
Le principe, ce serait pas que d'aller d'un point A à un point B, mais d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que s'il faut aller sur un guichet administratif, qu'on aille chercher les gens à leur domicile, qu'éventuellement on les aide à se déplacer jusqu'au pousse-pousse, qu'on les embarque dans le pousse-pousse, qu'on fasse le trajet, qu'on aille jusqu'au guichet, qu'on les attende et qu'on reparte avec eux.
Et vous avez essayé d'avoir de la subvention pour ce type de projet, parce qu'une heure à 24 euros, c'est quand même un peu
tout à fait,
délicat.
On en est bien conscient. Alors, le prix est expliqué, le prix n'est pas extravagant en même temps. C'est simplement que dès que ça fait intervenir du personnel, il y a des effets de seuil nécessairement là-dessus. vraiment un coup là-dessus. Conscient de cela, bien entendu, on a demandé, notamment au Conseil général là, cette année, de bien vouloir nous aider au moins de manière expérimentale, c'est-à-dire pour tester ce service, de pouvoir faire baisser le prix pour les usagers, surtout s'agissant de personnes à mobilité réduite, on sait qu'ils ne roulent pas sur l'or, et on demande là aux collectivités locales de nous accompagner sur ce projet. Et d'en faire la démonstration avec nous de l'utilité de ce service-là qui pourrait être complémentaire au service des collectivités locales et peut-être aussi que ça mettrait l'accent sur les difficultés particulières qu'on a à Marseille sur le service public de transport puisque les métros actuellement sont la plupart du temps inaccessibles et que les bus le sont très souvent. En fait, il y a souvent que le tramway, je pense au fauteuil roulant notamment là, il y a souvent que le tramway qui est réellement accessible.
Oui, enfin, quand on peut par ailleurs accéder aux voitures elles-mêmes, parce qu'on peut monter dedans, mais encore faut-il que le trottoir soit suffisamment libre pour pouvoir accéder à la voiture.
Tout à fait. On est en train de découvrir ça. C'est pour ça que nous nous sommes rapprochés des fédérations, notamment, qui travaillent sur ce thème. Je pense à Parcours 13. Parce que nous, on a bien conscience que l'on a besoin aussi de travailler avec ces associations pour prendre conscience de toutes ces micro-difficultés qu'on rencontre à longueur de temps quand on se déplace en ville avec un handicap. Et l'idée, c'est de former nos cycloguides également à toutes ces caractéristiques. On aura des limites, bien entendu, hein. On ne pourra pas tout faire, ça c'est sûr, mais je pense que dans de nombreux cas, et on a commencé à les expérimenter, on doit pouvoir quand même améliorer pas mal la vie des personnes sur cette thématique de la mobilité et du déplacement. On a aussi un grand projet, et puis là je profite de passer finalement à la radio par des médias, parce qu'on aura besoin de partenaires pour ça. On a constaté, concernant les fauteuils roulants, qu'il serait très possible, c'est-à-dire c'est possible sur le papier, c'est possible théoriquement et c'est possible en réalité, de concevoir un pousse-pousse qui puisse embarquer par un système de passerelle un fauteuil roulant, même lourd, un fauteuil sophistiqué, un fauteuil autonome, avec son passager. Mais ça va nous demander de créer un prototype, de le tester, et ces choses-là sont assez chères. C'est un projet dormant pour l'instant, mais on voudrait aussi contacter les fondations. Et ma foi, puisqu'on a un système coopératif aussi, s'il y avait des personnes, des investisseurs qui étaient intéressés par ce projet-là, qu'ils n'hésitent pas à nous appeler.
Et ben voilà, donc pour appeler ProxyPousse, ben il ne reste plus qu'à vous donner les contacts. On va d'ailleurs redonner celui de la balade aussi. Donc pour ce qui concerne l'association, pour avoir des renseignements généraux sur l'association et puis pour participer au projet, c'est le 07 60 93 23 10. 07 60 93 23 10 et pour les balades donc c'est le 06 26 51 66 12 06 26 51 66 12 et le site web c'est proxypousse.proxipouse donc proxypousse.com. Et le mail, c'est contact@proxypousse.com. Ils ont aussi une page Facebook, paraît-il. Voilà, puis ils peuvent aussi envoyer une newsletter à ceux qui en font la demande. Voilà pour ProxyPousse. On va passer à la dernière pause, enfin pas la dernière, mais l'avant-dernière pause de cette émission avec Gilbert Bécaud et le pommier à pommes que je dédie particulièrement à deux de nos amis Chérifa et Karim qui vont bientôt avoir une petite fille.
Qui l'ont eu?
Non, qui l'ont pas eu encore.
Ils l'ont pas eu?
Non, ils l'ont pas eu, mais ils savent que c'est une fille.
Ah d'accord, voilà, c'est ça.
Voilà.
Pourquoi pas qu'on s'assoie sous un pommier à pommes, bien assis, bien à soi, on attend qu'elle tombe. pourquoi pas qu'on boira de l'eau de la rivière, dans le creux de ses doigts, dans le lit de la pierre. Il fait comme il voudra, l'avion Paris-Stockholm, j'ai besoin de personne quand ma pomme à ton bras. Pourquoi pas qu'on ira labourer dans la neige? Quand la neige affondra, il y aura le blé qui lève. Je prendrai mon fusil pour chasser du chemin la mauvaise compagnie des chasseurs et des chiens. Il fait comme il voudra, l'avion Paris-Stockholm, j'ai besoin de personne quand mon blé pointera. Pourquoi pas qu'on cassera la pendule de la gare? Comme ça tout le monde y sera, ou trop tôt ou trop tard. Ça gênera pas le coq, ni ses coquericots, ni l'appétit du loup, ni la peur de l'agneau. Il fait comme il voudra, l'avion Paris-Stockholm, il sera l'heure qu'on voudra sur le premier port. Pourquoi pas qu'on fera un ou deux petits drôles, un pour toi, un pour moi, sous le pommier à pommes. Je te jouerai du violon pendant que t'accoucheras, ça te paraîtra moins long, je crierai avec toi. Il fait comme il voudra, l'avion Paris-Stockholm, j'ai besoin de personne, excepté que de toi. De machine, ta télé pyjama, ta demoiselle en lisine. Et tu détourneras l'avion Paris-Stockholm qui te déposera sous le pommier à pommes.
Voilà, c'était Gilbert Bécaud.
Le pommier à pomme, c'est extrait de l'album Je partirai, je crois. Et voilà, donc un petit clin d'œil comme ça à nos amis Chérifa et Karim. Puis voilà, on arrive bientôt à la fin de cette émission. On n'a pas eu d'appel, mais bon, c'est pas grave. J'espère quand même qu'il y avait quelques auditeurs derrière le poste. Sinon, ce serait dommage. Pour ceux qui n'auraient pas eu le temps d'écouter tout, qui voudraient réécouter, ben, ça va être possible puisque c'est rediffusé sur Radio Galère. Mais bon, c'est pour les noctambules parce que je crois que c'est rediffusé le samedi à 1h du matin ou quelque chose comme ça. C'est ça, Sidi ?
Oui, à 1h du matin.
Ouais, donc ça, c'est pour les noctambules. Et pour ceux qui ne le sont pas, ça va être aussi sur le site, bien sûr, de la radio.
Quand on aura de nouveau Internet.
En téléchargement, mais ça, c'est pas grave, parce que c'est pas pour nous. C'est pour les autres, sur le site de la radio, les autres, ils ont Internet, et nous, on l'a pas.
Non, mais ils sont encore pouvoir le mettre.
Ah oui, mais ça, c'est la radio qui s'en occupe, donc ça, c'est pas grave. C'est pour le mettre sur notre site à nous que ça pose plus de difficultés. Ça pose tellement de difficultés que j'ai jamais le temps de m'en occuper. Donc, c'est pas que c'est difficile à faire, mais c'est qu'il faut le trouver le temps de le faire. Et donc, en plus, en ce moment, c'est vrai, on n'a ni Internet ni téléphone à la maison, donc c'est un peu le bazar. Mais ce sera quand même prochainement, j'espère, sur le site de la Luciole aussi. Voilà, voilà. Quelques petites choses concernant l'agenda, mais pas grand-chose en fait, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, et puis parce que j'ai pas trop cherché des choses, vu que j'avais pas Internet à la maison, c'était un peu compliqué. Et donc, j'avais juste à donner les dates concernant l'audiovision et de l'Alcazar, qui apparemment serait le 20 avril, mais en même temps, il devait y avoir aussi un spectacle, le spectacle concernant donc Albert Camus et Georges Brassens, que fait notre amie Anne-Marie Mancel et son collègue Antoine, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien les dates, c'est assez flou. En tout cas, elle m'a dit que c'était le 20 avril, mais en même temps, il y a l'audiovision. Alors, il y aurait l'audiovision qui serait reportée à une autre date. En même temps, moi, Corinne m'avait dit le 13 avril, donc je ne sais plus très bien. Le mieux, c'est que si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre chose, eh bien, vous téléphonez à l'Alcazar au 04 91 55 90 00. Et là, vous demandez le service Lire Autrement, parce que je pense qu'ils sont les mieux informés de ce genre de choses, puisque c'est eux qui les programment. Voilà, voilà. Sinon, que dire de plus ? Que demain, la Luciole sera en intervention dans un collège de la Valentine, où on va notamment, grâce à la compagnie Coup de Chapeau, faire une lecture à voix haute du roman de Renard, et puis on va également sensibiliser cette classe de 6e au braille. Et pour ceux que ça intéresserait d'avoir aussi des sensibilisations, on n'est pas encore aussi sophistiqué, j'allais dire, que Nouveau Regard sur le handicap qu'on avait présenté la fois dernière, mais enfin on peut aussi faire de petites interventions dans les écoles, dans les centres aérés, dans les centres d'hébergement, centres de loisirs sans hébergement, ça s'appelle maintenant, dans des choses comme ça, pour expliquer un peu aux enfants ce que c'est que le handicap visuel et comment on peut apprendre le braille, etc. Voilà, donc si ça intéresse des personnes, ils peuvent nous contacter. Je rappelle les contacts de la Luciole, qui sont le 04 88 04 27 03. Mais on peut m'avoir plus sûrement au portable, parce que je suis plus trop chez d'un autre domicile maintenant quand je travaille pour l'asso. Donc c'est au 06 81 13 24 68. 06 81 13 24 68. Donc pour le portable, sinon le site internet www.laluciole.asso.fr contient un formulaire de contact, et puis on peut nous avoir aussi par mail laluciole-marseille@club-internet.fr. voilà, j'ai tout dit pour ce qui concerne les contacts. Que dire encore ? Que on attend des gens pour éventuellement s'intéresser à ce qu'on fait, et pour éventuellement adhérer à l'association, ou en tout cas travailler avec nous par leurs conseils et par ce qu'ils pourraient éventuellement proposer, pourquoi pas. On est aussi au local mutualisé des grands terrains, qui se trouve 8 rue Vian. Alors, on n'y est pas régulièrement, donc le plus simple, c'est de prendre rendez-vous si vous avez des choses à partager avec nous. Et à ce moment-là, on convient d'une heure au grand terrain. Et puis voilà, pour finir, je crois que ce sera tout. Avec une dernière pause pour terminer, avant de nous quitter.
Avec une dernière pause un peu particulière, je pense que vous le savez. Nous avons perdu une grande artiste française.
Une
grande organiste qui était Marie-Claire Alain. Et je vous propose de la retrouver comme ça, pour un petit coup de chapeau, dans le dernier mouvement de la sonate en mi bémol majeur. Pour les puristes, c'est le BWV 525. Et c'est donc un allegro.
De Jean-Sébastien Bach.
Jean-Sébastien Bach.
Non, Jean-Sébastien Bach, pas Biak. Qu'est-ce que c'est que ça ? N'importe quoi. Bon, ça c'est la fatigue. Il est temps d'aller manger, je crois. on se dit donc au mois prochain avec peut-être un sujet sur Voile Impulsion, si on a eu l'occasion de sortir en mer d'ici la prochaine date. Voilà, voilà. Donc, sinon, je sais pas trop. Alors, si vous avez aussi des idées de sujets, vous pouvez toujours nous
De venir participer à l'émission.
Si mais tout à fait, parce que pourquoi pas, hein, pour des animateurs, c'est pas très difficile de parler derrière un micro. Il suffit de se lancer. Et puis, en général, ça se passe pas si mal que ça. Donc, si par hasard il y a des gens que ça intéresse, des associations de personnes handicapées qui veulent se faire connaître, des personnes qui, de près ou de loin, touche au handicap d'une façon ou d'une autre, je sais pas, des éducateurs, des enseignants, des bricoleurs, c'est très très large. Donc voilà, c'est la libre expression des personnes handicapées, de leurs associations et puis de ceux qui s'intéressent au sujet. Voilà. Alors, on vous laisse donc avec Marie-Claire Alain au mois prochain et puis joyeuse Pâques.
Au revoir.
L'association La Luciole présente Handicap Tribune, magazine de libre expression des personnes handicapées et de leurs associations. Au micro, Dorothée et Philippe, avec à la technique l'efficace complicité de Sylvie.